Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur la fréquence de Radio Résonance à l'écoute de l'émission Rencontre Lusophone. Pour des raisons personnelles particulièrement douloureuses, l'émission de ce soir sera la diffusion de l'émission du 1er juin 2019. Elle traitait du plus grand auteur portugais du XXe siècle, j'ai nommé Fernando Pessoa. Mais tout d'abord, la petite chronique d'Hélène. Bonne écoute. Bora!
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Mais avant d'aller vers l'univers de Pessoa, voici mon billet d'humeur du jour. À une semaine des élections européennes, j'ai eu envie d'aller voir un peu ce qui s'est passé côté élections au Portugal. J'ai voulu vérifier si, comme dans de nombreux pays européens, le populisme y avait gagné du terrain. Et je voulais voir surtout si le programme d'austérité imposé par la Troïka il y a 4 ans avait laissé des traces d'euroscepticisme chez les Portugais. Eh bien, il semblerait que non, puisque ces élections européennes n'ont pas modifié le paysage politique actuel. Et non, puisque ce sont les socialistes au pouvoir qui ont remporté les élections avec une nette victoire de 33,4% des voix. Et ce qui du coup leur a permis de gagner un siège supplémentaire au Parlement européen avec une totalité de 21 sièges à pourvoir pour le Portugal. Un succès qui a de quoi conforter le Premier ministre António Costa à l'approche des législatives prévues en octobre prochain. Et je dois dire que c'est plutôt rassurant de constater que, contrairement à de trop nombreux autres pays européens, il n'y a pas eu d'émergence des extrêmes au Portugal. Selon les analystes, il semblerait que les Portugais ne sont pas foncièrement divisés sur l'Europe et qu'ils seraient même plutôt majoritairement europhiles. Et pourtant, Dieu sait si ce peuple portugais a payé un lourd tribut lors des restrictions budgétaires imposées par la Troïka. Mais comment expliquer alors que malgré la terrible crise économique d'il y a 4 ans, le souverainisme et le nationalisme anti-Bruxelles ne prennent pas dans ce pays ? Eh bien, la réponse pourrait être un lien avec son histoire récente. Tout comme en France, on parle de la période prospère des 30 Glorieuses, juste après la Seconde Guerre mondiale, eh bien au Portugal, la période de prospérité maximale est désormais associée à son entrée dans l'Union européenne. En effet, l'adhésion à cette Union européenne a propulsé le Portugal dans la modernité, car c'est bien grâce aux fonds européens que le pays a pu se doter d'un excellent réseau routier. Après des décennies de dictature, il a en outre beaucoup bénéficié du projet européen en termes de matière sociale, de transport ou d'éducation. C'est beau tout ça. Mais malgré tout, il semblerait que malgré un taux plutôt élevé d'europhiles portugais, le scrutin de dimanche ait été marqué par une abstention record. Alors que partout en Europe, l'abstention a reculé, elle a encore augmenté au Portugal, s'établissant à 63%. Un record qui s'expliquera en partie par une réforme qui inclut dans le corps électoral le 1,3 million de Portugais qui sont partis vivre à l'étranger et qui visiblement se sont désintéressés de cette élection. Aujourd'hui, je suis donc partagée entre deux sentiments, triste et déçue que l'extrême droite ait réussi une telle percée en France, mais fière et contente que les Portugais aient si bien résisté à la tentation du repli.
Deixar desplisi, bo si ja mnie też kontrewisem, potem przesaj te dwoty, jukie widem da, a my te plikłe betote, ja mnie zwila, si on wota, si tiuszkę wady, że pesuje tu stizy, bo si otry wyjeżdż mi pojnale mi tak. Ej, szafika, tym tam, a żydkie napisa biorę nam polskie szale. Już mnie zjesz, tutaj, był widny kawałek, biorę nam polskie szale. Ej, szafika, tym tam, a żydkie napisa biorę nam polskie szale.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Soutenir qu'un poème est une personne, un être vivant, qu'il appartient avec une présence corporelle et une existence charnelle, à un autre monde où notre imagination le projette. C'est avec ce poème de Fernando Pessoa que j'avais envie d'ouvrir cette chronique sur l'un des plus grands poètes portugais du XXe siècle. Auteur d'une œuvre magistrale, Fernando Pessoa, dont le nom signifie « personne », est l'une des grandes voix poétiques du siècle passé. Resté longtemps méconnu, il est désormais reconnu et admiré bien au-delà des frontières de son pays, le Portugal. Né le 11 juin 1888 à Lisbonne, ville où il meurt des suites de son alcoolisme, le 30 novembre 1935, Pessoa a vécu une partie de son enfance à Durban, en Afrique du Sud, où son beau-père était consul. Écrivain, critique, polémiste et poète portugais, trilingue, principalement portugais, mais aussi anglais et dans une moindre mesure français, il n'a quasiment jamais signé ses œuvres avec son véritable nom. Celui de Fernando Pessoa résonne pourtant comme l'un des plus célèbres du Portugal. Autant d'hétéronymes, terme employé par l'écrivain lui-même, pour autant d'approches poétiques du monde. Sensationniste, sensationniste et moderniste, lorsqu'il prend la parole d'Albert Campos, austère et vertueux avec Ricard Reis, sage et païen avec Albert Caeiro. Le poète développe ainsi un univers complexe empreint de scepticisme, mais aussi d'ésotérisme et de mysticisme. Personnage très discret, Pessoa travaille comme secrétaire et rédige des chroniques musicales pour des journaux. Ses textes demeurent inconnus du public jusque dans les années 80, époque à laquelle son chef-d'œuvre, le livre de l'intranquillité, est publié. Ce livre est un journal tenu par Bernard Soares que Pessoa considère comme son double, plus que comme son hétéronyme. Cette ode à la ville de Lisbonne évoque la dissolution de l'être et la suprématie de l'art. «
transforma, perdida num mar sem fim, perdida dentro de mim, nem da minha ilha a forma. Esta lava incandescente, derramada no meu peito, faz de mim ser estes meus olhos de garça, neste beco sem saída, onde o meu coração mora, ouço sons de despedida, vejo sinais da partida, mas tenho em não ir embora.
Un poème sommeille en moi qui exprimera mon âme entière. Je le sens aussi vague que le son et le vent, non modelé dans sa forme accomplie. Il n'a ni stance, ni verbe, ni mot. Il n'est même pas tel que je le rêve. Rien qu'un sentiment confus de lui, rien qu'une brume heureuse entourant la pensée. Jour et nuit, dans mon système, dans mon mystère intime, je le rêve, je le lis, je l'épelle. Et sa vague perfection toujours gravite en moi à la frange des mots. Jamais, je le sais, il ne sera écrit. Je sais, et j'ignore à la fois ce qu'il est, mais je jouis de le rêver, car le bonheur, même faux, reste le bonheur. C'était le poème de Pessoa. Picasso avait dit un jour, « Lorsque vous ferez ma biographie, vous n'aurez que deux dates à retenir, l'année de ma naissance et l'année de ma mort. » C'est certain, Pso avait conscience de son propre génie. Certains vont jusqu'à le classer parmi les plus grands écrivains de tous les temps. Il écrivait en anglais ou en portugais, mais n'a quasiment rien signé de son nom, sauf des articles dans les journaux. On sait même qu'il a très peu publié de son vivant. Pso est né à Lisbonne en 1888. Son père était employé à la secrétairie d'État et critique musicale. Il meurt de la tuberculose en 1893, alors que le jeune Fernando n'a que 5 ans. Sa mère se remarie alors avec le consul du Portugal à Durban. Toute la famille s'embarque alors pour l'Afrique du Sud. Là, le petit Fernando commence à apprendre l'anglais. Il sera même l'un des meilleurs élèves de la Durban High School. Il grandit puis fréquente l'université du Cap où il commence à écrire en anglais. Il écrira des poèmes dans cette langue jusqu'en 1921, après son retour définitif d'Afrique du Sud en 1905, à l'âge de 17 ans, Pessoa n'a plus jamais voyagé. À son retour de Durban, Pessoa n'a pratiquement plus quitté Lisbonne et on peut même dire qu'il a passé tout le reste de sa vie, c'est-à-dire 30 ans, dans un espace assez restreint pour qu'on puisse le parcourir à pied. Entre la place Saint-Carles où il est né et l'hôpital Saint-Louis des Français où il est mort, il y a à peine 1 km. Entre la ville basse, la Baixa, où il travaillait, et le Camp d'Uric où il a résidé de 1920 à sa mort, il y a environ 3 km. Dans cette bande étroite de tissu urbain, le long du fleuve, il n'a guère cessé de déambuler. Du château Saint-Georges à de la place du Figuier, place de Figuier à l'est, au port d'Alcântara à l'ouest. Mais ces deux lieux les plus chargés de poésie, les plus magiques, sont ceux où l'on peut encore aujourd'hui le retrouver dans les cafés qu'il fréquentait. Il y a celui de la place du commerce, appelée autrefois Trair do Paço, où la ville s'ouvre sur le Tage et où la table du poète au café de Murting da Arcada est restée telle qu'elle. Et puis il y a celui du Chiado, à la jointure entre la ville basse et le quartier haut, le Bairro Alto. Il est là, aujourd'hui encore, à la terrasse de la Brasileira, le café qu'il aimait tant. Sa statue grandeur nature est là, assise pour l'éternité. Aujourd'hui, n'importe quel consommateur du café peut s'attabler avec lui pour ce pèlerinage qui ne ressemble à aucun autre. S'installe définitivement à Lisboa. Grâce à l'héritage de sa grand-mère, il ouvre en 1907 un atelier de typographie qui sera vite un désastre financier. L'année suivante, il entre au journal Commercio en tant que correspondant étranger et y travaillera comme traducteur indépendant pour différentes entreprises d'import-export. Tous ces petits boulots seront jusqu'à sa mort sa principale source de revenus. En 1915, il crée la revue Orfeo, qui marquera de façon décisive sa véritable position dans le monde littéraire. Mais sa liberté de ton va choquer aussi bien la critique que le grand public. Et sûrement trop en avance sur son temps, la revue ne comptera que 2 numéros. En 1917, il publiera Ultimatum, inspiré du manifeste futuriste de l'Italien Marinetti. En 1921, il lance avec quelques amis la maison d'édition librairie Olisipo, qui publiera quelques-uns de ses poèmes en anglais. À partir de 1922, il collabore assidûment à la revue littéraire Contemporanea, puis à la revue Athéna, qu'il a contribué à fonder en 1924. De 1920 à sa mort en 1925, il recueille sa mère, veuve et invalide, rentrée au Portugal. À partir de 1925, il vit avec sa sœur Henriquette et son beau-frère, le colonel Caetan Diez. Et sa vie amoureuse alors? Eh bien, la seule femme connue dans sa vie s'appelait Ophélia. Entre 1920 et 1929, il a échangé avec elle 48 lettres. Leur relation était assez trouble. On sait qu'ils se sont rencontrés dans l'entreprise de son cousin, où elle avait été embauchée comme secrétaire et où lui-même travaillait comme traducteur. Elle avait 19, lui 32.
Faltam folhas suaves na calma do teu fogo brilhando a escrever na alma. Estas fontes da nossa utopia são sementes, são rostos sem velas. O teu sonho profundo estreita dos céus. Logo de manhãzinha subiu a ladeira já.
Ophélia sera le seul amour de Fernando Pessoa, on le sait. Leur relation était trouble, ils étaient ensemble, pas ensemble. Ils s'aimaient, se détestaient, partageaient quelques plaisirs, puis rompaient. Puis revenaient ensemble. Une vie amoureuse si tumultueuse qu'elle en a même fait l'objet d'une analyse psychanalytique. En tout cas, à la lecture de ces lettres à Ophélia, on ne peut qu'être déconcerté par leur banalité qui tranche tellement avec son style d'écrivain. Le même Pessoa qui écrivait « La liberté, c'est la possibilité de s'isoler. Tu es libre si tu peux t'éloigner des hommes sans que t'oblige à aller rechercher le besoin d'argent ou l'instinct grégaire, l'amour, la gloire ou la curiosité. Toutes choses qui ne peuvent trouver d'aliment dans la solitude ou le silence. Si t'es impossible de vivre seul, c'est que tu es né esclave. Tu peux bien posséder toutes les grandeurs de l'âme ou de l'esprit. Tu es un esclave noble ou un valet intelligent, mais tu n'es pas libre. » Ce même écrivain génial, capable d'écrire de telles choses profondes, était capable d'adresser des lettres d'amour totalement banales. Comme par exemple ce courrier adressé à Ophélia le 1er mars 1920. « Petite Ophélia, pour me montrer votre mépris, ou du moins votre indifférence réelle, ni l'apparence transparente d'un discours si long, ni la série de raisons aussi peu sincères que convaincantes que vous m'avez adressées n'étaient nécessaires. » Il suffisait de me le dire, comme cela, je le comprends tout aussi bien, à ceci près que cela me fait encore plus mal. Ou si vous me préférez, le jeune homme que vous préfréquentez et que vous aimez beaucoup certainement, comment pourrais-je le prendre mal ? La petite Ophélia peut préférer qui elle voudra. Elle n'est ni obligée, je le crois vraiment de m'aimer, ni d'avoir besoin, à moins qu'elle ne le veuille, de s'amuser, de feindre de m'aimer. Et voilà.
Quedo prantos que eu chorei, mondego que é da tua água, que é dos prantos que eu chorei.
Pendant 30 ans de son adolescence à sa mort, Pessoa ne quittera pas sa chère Lisbonne, où il mène l'existence obscure d'un employé de bureau. Mais le 8 mars 1914, le poète de 25 ans, introverti, idéaliste et anxieux, voit surgir en lui son double antithétique, complètement à l'opposé de sa propre personnalité, le maître païen Albert Caeiro. Suivi de deux autres disciples, Richard Reich, un stoïcien épicurien, et Álvaro de Campos, qui se dit sancianiste. Alors qu'un modeste gratte-papier, Bernard Swatch, dans une prose somptueuse, tient le journal de son intranquillité, Fernando Pessoa lui-même utilisait le portugais ou l'anglais pour explorer toutes sortes d'autres voies de l'érotisme à l'ésotérisme et du lyrique critique au nationalisme mystique. Et ainsi, Pessoa, incompris de son vivant, a entassé ses manuscrits dans une malle où l'on n'a pas cessé de puiser depuis sa mort en 1935. Les fragments d'une œuvre informe, inachevée, mais d'une incomparable beauté. Vivre, c'est être quelqu'un d'autre, écrivait-il. Lui, qui s'est inventé quantité d'hétéronymes, nul mieux que lui n'a pourtant éprouvé avec autant de force et de douleur que le divers nous traverse de l'intérieur au point d'avoir mal à la tête et à l'univers. Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il n'est pas suffisant de ne pas être aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il faut n'avoir aucune philosophie. Quand il y a philosophie, il n'y a pas d'arbre. Il y a des idées sans plus. Il n'y a que chacun de nous à la manière d'une cave. Il n'y a qu'une fenêtre fermée avec le monde entier au dehors. Ainsi qu'un rêve de ce qui pourrait être vu si la fenêtre s'ouvrait et qui n'est jamais ce qui est vu lorsque s'ouvre la fenêtre. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é o bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores. Há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e o mundo lá fora. É um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Sim, é? Albert Caeiro.
Todos temem, ninguém foge, todos ficam, tudo vai. vais ficar e vais dançar, porque sem ti, sem ti, sem ti, meu amor, eu não vejo o céu. Apaga-se a fogueira e esta dança que veio em mim acendeu. Ei, arai, horror, ei, arareia, ei, arai, 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 horror, ei,
Albert Cayer, à peine né, je m'employais aussitôt à lui trouver des disciples, écrivait Pessoa. J'arrachais Richard Reich, encore latent, à son faux paganisme. Je lui trouvais un nom et je l'ajustais à lui-même, car à ce moment-là, je le voyais déjà. Et voici que soudain, par une dérivation complètement opposée à celle dont était né Richard Reich, apparut impétueusement un nouvel individu. D'un seul trait, à la machine à écrire, sans pause ni rature, jaillit l'ode triomphale d'Albert Kampusch. Seul, sur le quai désert, en ce matin d'été, je regarde du côté de la barre, je regarde l'indéfini. Je regarde et j'ai plaisir à voir. Petit, noir et clair, un paquebot qui entre. Il apparaît au loin, net et classique à sa manière. Laissant derrière lui, dans l'air distant, la lisière vaine de sa fumée. Il entre, et le matin entre avec lui sur le fleuve. Ici et là s'éveille la vie maritime. Des voiles se tendent, des remorqueurs avancent, de frêles embarcations jaillissent de derrière les bateaux du port. Il y a une vague brise, mais mon âme est avec ce que je vois le moins, avec le paquebot qui entre, parce qu'il est avec la distance, avec le matin, avec l'essence maritime de cette heure. avec la douceur douloureuse qui monte en moi comme une nausée, comme un début de mal de mer, mais dans l'esprit. Je regarde de loin le paquebot avec une grande indépendance d'âme. Et au fond de moi commence à tourner un volant lentement. Les paquebots qui, le matin, passent la barre, charrient devant mes yeux. Le mystère joyeux et triste des arrivées et des départs. Il charrie des souvenirs de quais lointains et d'autres moments. D'une autre façon, de la même humanité, en d'autres ports. Tout abordage, tout largage des amarres. Est-ce que je le sens en moi comme mon propre sang, inconsciemment, symbolique, terriblement, menaçant de significations métaphysiques, qui perturbe en moi celui que j'ai été? Ah, le quai est tout entier une mélancolie de pierre, et lorsque le navire se sépare du quai, et qu'il devient soudain, elle manifeste qu'un espace est ouvert entre navire et quai, il me vient, j'ignore pourquoi, une angoisse récente, une brume de sentiments de tristesse, qui brille au soleil de mes pelouses d'angoisse, comme la première fenêtre où frappe le petit jour et m'enveloppe comme le souvenir d'un autre qui serait mystérieusement mien. Ah, qui sait, si je ne suis point déjà partie autrefois avant moi-même d'un quai, si je n'ai point déjà quitté le navire au soleil, l'oblique de l'aurore, une autre espèce de port, qui sait, avant l'heure du monde extérieur tel que je le vois rayonner pour moi. Si je n'ai point déjà quitté un grand quai rempli d'un peu de monde, une grande cité à demi éveillée, une énorme cité commerciale développée, apoplectique, si tant est que cela fût possible, hors de l'espace et du temps. Un quai, oui, un quai en quelque sorte matériel, réel, visible en tant que tel réellement, quoi. Le quai absolu, dont le modèle inconsciemment imité, insensiblement évoqué, guide nos constructions à nous les hommes. Nos quais dans nos ports. Nos quais de pierre actuels sur de l'eau véritable, s'avérant une fois construits, chose réelle, chose esprit, entité d'âme pierre, à certains moments nôtres d'un sentiment racine. Lorsque dans le monde extérieur s'ouvre comme une porte, et sans que rien ne change, tout se révèle divers. Ah, le grand quai dont nous partîmes en navire nation, le grand quai antérieur, éternel et divin. De quel port, sur quelles eaux, et pourquoi est-ce que je pense cela? Grand quai comme les autres, mais unique, plein comme eux de la rumeur des silences de l'aube, qui éclate avec le jour dans un fracas de grues et d'arrivées de trains de marchandises. Sous le nuage noir, occasionnel léger, de la fumée des cheminées d'usine, venant noircir son sol obscur et luisant de poussière de charbon comme l'ombre d'un nuage qui se déplace sur une eau sombre. Ah, aux heures couleur de silence et d'angoisse. Quelle ancestralité de mystère et de sens, figée en divine extase révélation, ne serait un pont entre chacun des quais et le quai. C'était l'ode maritime d'Alvar Campos.
em que a nossa rainha o vai visitar. Mal haja quem a conduz a um tal coito se abriga. Segue a estrada que vai ter até às terras de Tular.
En 1934, Fernando Pessoa remporte le prix Antero de Cantal pour Message, une sorte d'épopée d'un patriotisme universaliste et qui sera son unique livre publié de son vivant. L'année suivante, en 1935, il refuse d'assister à la cérémonie de remise des prix Antero de Cantal présidée par Salazar. En octobre 35, en guise de protestation contre la censure, il décide de ne plus rien publier au Portugal. Il mourra le 2 décembre, pauvre et méconnu du grand public. En 1968 seulement, on commence l'inventaire de la malle où il entreposait ses écrits. On y découvre plus de 27 000 manuscrits signés par 72 auteurs différents. Par le jeu de ces hétéronymes mystérieux, double littéraire, Pessoa entendait être toute la littérature portugaise à lui seul. Finalement reconnu comme l'un des grands écrivains portugais, il repose depuis 1985 au fameux monastère des Hiéronymites sur les bords du Tage, auprès de Vasco de Gama et de Camões. Aujourd'hui, il est traduit un peu partout dans le monde, son œuvre est sujet de nombreuses thèses universitaires. Sachez que si vous voulez lire Pessoa et mieux le connaître, en France, les éditions La Différence, Christian Bourgeois et Chandaigne ont entamé la publication de ses œuvres complètes. Et avant de terminer cette chronique sur Pessoa, je voudrais juste vous dire deux mots sur le livre de l'intranquillité, qui est une sorte de journal intime écrit par Bernard Soares, alias Fernando Pessoa, une œuvre à travers laquelle Pessoa inspecte l'intérieur aux mille facettes d'un de ses nombreux hétéronymes, c'est-à-dire d'une de ses proliférations de soi-même dont chacun de nous est construit. Voilà, ce livre fera l'objet d'une prochaine émission que nous espérons avoir la chance de pouvoir interviewer Marie-Hélène Pivnik, l'auteur qui dernièrement l'a traduite en français. On va croiser les doigts.
Meu, e antes de fado é paixão, trago. maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Voilà, Rencontre Lusophone se termine, mais pour mieux revenir samedi prochain à la même heure, à 18h. Bonne semaine à tous. Merci Jeff. Merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Je vous embrasse.
Chers auditeurs de Rencontre Lusophone, merci à vous de nous être fidèles. Rendez-vous ici même demain dimanche à 20h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Radio Résonance Bourges. Rendez-vous ici même samedi prochain pour une prochaine émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et sortez masqués. À demain.
Il faut mourir.